Et à la une de l'actualité, une nouvelle nuit très difficile pour Israël avec ce barrage de missiles iraniens meurtriers. Le bilan est très lourd ce matin. 10 morts, 4 à Tamra dans le nord, 4 Arabes israéliennes d'une même famille et 6 autres à Bat Yam dans le centre d'Israël, 2 dont 2 femmes, un garçon de 10 ans et une fille de 8 ans qui ont été tuées. Il y a au moins 270 blessés. Ilan Klein, qui est directeur international du Magen David Adom.
À Bat Yam, il y a toute une rue qui a été touchée, quelques bâtiments qui ont été effondrés. Et les secouristes du Magen David Adom, dont les premières minutes ont localisé les blessés. Et maintenant, on a des ambulances sur place. Pour les prochains blessés, il faut dire qu'il y a encore 7 personnes qui sont en recherche et on espère de les trouver vivants.
Ilan Klein, qui est responsable des relations internationales du Magen David Adom, le MDA. Hier soir, lors d'un entretien avec le président russe, Donald Trump a affirmé que la guerre contre l'Iran devait s'arrêter. Et ce matin, il estime qu'il sera facile de trouver un accord entre Israël et l'Iran. Le premier ministre israélien, lui, a assuré qu'il avait un soutien clair du locataire de la Maison Blanche. Mais pour l'ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, Yehuda Lankri, il faut que ce soit plus clair encore et que les États-Unis attaquent l'Iran avec Israël.
Oui, c'est ça. À ce stade, je pense que c'est le moment d'épauler Israël sur le plan offensif. On a toujours dit qu'Israël peut lancer une attaque, mais ce sera difficile de faire cavalier seul avec cet immense territoire iranien et les centaines d'objectifs qu'il faut
frapper. C'était donc Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et en France. De son côté, le chef d'état-major a annoncé le bombardement d'un site nucléaire iranien souterrain. L'Agence internationale d'énergie atomique a confirmé que 4 bâtiments du site nucléaire d'Ispahan avaient été visés. C'est dans ce contexte que le 6e round de discussion États-Unis-Iran sur le nucléaire a été annulé. Il aurait dû se tenir à Oman. Téhéran y a renoncé. Emmanuel Macron a appelé le régime islamique iranien à la retenue et demandé un retour rapide à la table des négociations sur le nucléaire. Le président de la République exige aussi la libération immédiate des 2 otages français de l'Iran, Cécile Keller et Jacques Paris. De son côté, la Grande-Bretagne a déployé des avions de chasse au Moyen-Orient. Selon Keir Starmer, le premier ministre britannique, c'est une opération de soutien d'urgence à la sécurité régionale. Israël en état de guerre, les écoles sont toujours fermées, les lieux lieux de travail aussi, sauf ceux jugés essentiels. Benjamin Netanyahou exhorte les Israéliens à respecter les directives du commandement du front intérieur. Protégez votre vie, protégez votre corps, a affirmé le premier ministre israélien en citant la Torah. Le trafic aérien, lui, est toujours à l'arrêt total, ce qui signifie donc que des étrangers sont bloqués en Israël et également que des Israéliens sont bloqués à l'étranger. Il y en a actuellement 50 000. Toute la flotte est prête à décoller pour aller les chercher dès qu'il y aura un feu vert. La priorité sera donnée au lieu où les Israéliens sont actuellement les plus nombreux, New York, Bangkok, Italie, Grèce et Chypre. Ces évacuations devraient prendre plusieurs semaines. Conséquence en France, la crainte d'attentats de la part du régime islamique ou de ses proxys, vigilance particulière par rapport aux intérêts israéliens et américains et au lieu de la vie juive en France, car ce sont eux qui pourraient être ciblés. Mais l'avertissement concerne aussi les lieux de rassemblement et les événements festifs. Le ministre de l'Intérieur a adressé ce message au préfet hier. Bruno Retailleau appelle à la mobilisation des services de renseignement. Vendredi soir, le président Emmanuel Macron a déjà annoncé le renforcement du dispositif Sentinelle.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J. Pont-Neuf, Shlomo Malka. Radio J.
Le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J, invité de Pont-Neuf, Samuel Fitoussi, pour son livre « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» sans point d'interrogation, livre paru aux éditions de l'Observatoire. Samuel Fitoussi, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes essayiste, vous êtes chroniqueur au Figaro, auteur d'un livre précédent qui s'appelle Woke Fiction. Et dans ce livre-ci, vous faites le procès des intellectuels et vous démontez le mécanisme par lequel l'intelligence la plus brillante est mise au service de la mauvaise foi. Quels sont les ressorts de cette aveuglement, Samuel Fitoussi, et pourquoi les intellectuels, pour reprendre une de vos formules, ne voient pas ce qu'ils voient?
Alors, pour écrire mon livre, je suis parti d'un constat. C'est que quand on regarde l'histoire intellectuelle du XXe siècle, il y a une véritable énigme. Les plus grands intellectuels français, dans la deuxième moitié du siècle, se sont presque systématiquement trompés. Si vous prenez Jean-Paul Sartre, qui était assurément l'un des esprits les plus brillants de sa génération, auteur d'une œuvre littéraire et philosophique majeure, lorsqu'il s'est engagé en politique, il s'est presque systématiquement trompé. Il a soutenu le terrorisme palestinien au JO de Munich en 1972. Il a soutenu Mao. Il a soutenu Staline. Il a soutenu les Khmers rouges au Cambodge. Il a soutenu la révolution islamique en Iran avec les conséquences que l'on connaît. Donc le bilan moral de son engagement politique est catastrophique. Et pourtant, Sartre était absolument brillant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis toute son intelligence, toute sa virtuosité rhétorique au service de la défense d'absurdité, au service de la justification de l'indéfendable. C'était d'ailleurs ce que lui reprochait Raymond Aron dans ses mémoires. Si vous voulez un exemple, il se rend en 1954 en URSS et à son retour, il dit que l'URSS est en train de construire un paradis, que le niveau de vie en URSS sera de 30 à 40% supérieur au niveau de vie en France et dans les 10 prochaines années. Et le journaliste lui dit, si la vie est si belle en URSS, pourquoi on ne voit pas de citoyens soviétiques faire du tourisme en France plus souvent? Et Sartre répond, oh vous savez, ils sont tellement bien chez eux qu'ils n'ont pas très envie de partir. Donc c'est un exemple paroxystique la façon dont il a mis son intelligence au service de la rationalisation d'absurdité.
Alors vous citez effectivement beaucoup Sartre et Beauvoir, ce qu'ils ont pu écrire effectivement sur la Russie stalinienne, la Chine maoïste, mais aussi l'attentat de Munich, la révolution roménienne. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'aucun d'entre eux n'a confessé ses erreurs.
Oui, c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'un intellectuel dispose du luxe de pouvoir se tromper sans jamais subir lui-même les conséquences de ses erreurs. Solzhenitsyn notait que Sartre était resté le maître à penser de l'intelligentsia occidentale, alors que Sartre était une boussole qui globalement indiquait le Sud toute sa vie. C'est très étonnant. Si vous voulez, lorsque le boulanger commet une erreur en fabriquant son pain a mauvais goût, les clients s'en détournent et sa boulangerie fait faillite. Lorsque le pilote d'avion commet des erreurs en conduisant son avion, il risque de mourir en même temps que ses passagers. Il joue sa propre peau. Lorsque l'employé de n'importe quelle entreprise privée commet des erreurs, il risque le licenciement. Mais l'intellectuel, lui, dispose du luxe de pouvoir se tromper systématiquement sans jamais être confronté à la réalité de ses erreurs, sans jamais subir les conséquences de ses erreurs. Et dans un tel environnement favorise l'irrationalité. Lorsqu'on peut choisir nos croyances sans en subir le coup, on a tendance à se tourner vers les croyances qui nous confèrent un statut social, vers les croyances qui nous permettent d'être bien vus par les autres, et non vers les croyances les plus justes, les plus véritables. Il n'y a pas d'incitation psychologique à la recherche de la vérité chez les intellectuels, ce qui explique pourquoi ils peuvent se tromper aussi souvent.
Alors vous citez beaucoup Revel, Aron en contre-exemple. Est-ce que la raison, je vous pose la question, est-ce que la raison de l'aveuglement ne tient pas au fait que les uns avaient plus de talent que les autres? La fameuse phrase que vous connaissez, qu'on disait à l'époque, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans?
Oui, sans doute. Je ne sais pas, tout dépend comment on définit le talent. Mais je pense que Sartre était peut-être aussi intelligent qu'Aron, en termes de puissance cognitive en tout cas.
Et Aron, il avait une œuvre de romancier, avait une œuvre de théâtre aussi.
Mais la tragédie, c'est que Sartre, à mesure qu'il avançait dans sa vie, se montrait de moins en moins capable de penser critique, de moins en moins capable de remettre en cause ses postulats idéologiques. Raymond Aron le raconte très bien dans ses mémoires, parce que Raymond Aron et Sartre étaient amis lorsqu'ils étaient étudiants, et ils avaient l'habitude d'échanger. Raymond Aron raconte que Sartre, souvent, lorsque Aron critiquait ses idées, les remettait en question, affinait ses arguments et ses hypothèses au contact de la pensée d'autrui, etc. Mais Aron dit que, à mesure que l'identité sociale de Sartre est devenue indissociable de ses idées, Sartre s'est montré incapable de remise en question. Et là est tout le drame des intellectuels. L'intellectuel, contrairement au citoyen lambda, fonde son identité sociale sur ses idées. Et donc le coût social du reniement, le coût social du changement d'avis est pour lui particulièrement élevé. Et donc à nouveau, ça crée des incitations psychologiques qui empêchent de se remettre en question, empêchent la pensée critique et empêchent l'intelligence d'être mise au service de la quête de vérité. Arrive un stade dans la vie d'un intellectuel où toute son intelligence est mise au service de la défense de ses égarements passés, est mise au service de la défense d'une grille de lecture unique du monde, et c'est le mécanisme de l'idéologie.
Comme d'Ambreuse, écrivez-vous, d'Ambreuse c'est un personnage du roman de Flaubert, L'éducation sentimentale, nous semblons capables de nous dédire à quelques minutes d'intervalle. Dans une expérience classique, des participants étaient invités à sélectionner parmi deux visages féminins celui qu'ils jugeaient le plus attrayant. Manipulant les résultats, les chercheurs leur présentaient alors le visage qu'ils n'avaient pas retenu et leur demandaient pourquoi ils l'avaient choisi. La majorité des participants ne s'apercevait pas de la manipulation. Au fond, ce que vous dénoncez, c'est quoi? C'est l'inconstance? C'est l'opportunisme?
Non, en fait, dans mon livre, je dénonce rien du tout. Je ne dénonce pas, ce n'est pas un plaidoyer contre les intellectuels. C'est une tentative d'explication, d'expliquer pourquoi, même lorsque l'évidence crève les yeux, on peut ne pas la voir. Pourquoi, quels sont les mécanismes cérébraux et cognitifs et psychologiques et sociaux de l'aveuglement? Pourquoi est-ce qu'il est possible, comme disait Peggy, de ne pas voir ce que l'on voit? Pour vous donner un exemple parmi d'autres, en 1930, Arthur Koestler, le grand écrivain, se rend en Ukraine. L'Ukraine, à ce moment-là, est ravagée par une famine, mais lui ne le sait pas. Lui va en Ukraine, l'Ukraine qui faisait partie de l'URSS, persuadé que l'URSS a trouvé la clé de l'utopie, a trouvé la clé du bonheur humain. Et donc, il plaque cette grille de lecture sur ce qu'il voit, et ses yeux le trahissent, l'empêchent de voir ce qu'il voit. Il racontera plus tard dans ses mémoires que pendant ce voyage, il voyait des gens affamés, il voyait des gens aveugles parce qu'ils manquaient de calories, il voyait des mères porter leurs bébés squelettiques aux vitres d'un train pour supplier les rares touristes de donner un bout de pain noir. Il voyait des gens prêts à échanger leurs chaussures contre des leurs chaussures usées contre des bouts de pain. Et pourtant, dans son carnet de voyage, il ne consigne rien de tout ça. Et il se contente de dire que la cabine de téléphonique dans son village était fantastique et laissait présager d'un avenir radieux. Et il a une phrase plus tard dans ses mémoires, écrite bien des années plus tard, quand il est revenu de son embrigadement communiste. Il dit « J'avais des yeux pour voir et un cerveau entraîné à déformer ce que mes yeux voyaient. » Et donc je pense que ça décrit très bien le mécanisme de l'idéologie.
D'accord, mais je vais vous titiller un peu. Vous venez de citer Charles Péguy. Et Charles Péguy ne s'est pas trompé, effectivement. Vous auriez pu citer aussi, vous ne le faites pas, son nom n'apparaît pas du tout, Albert Camus.
Oui.
Qui, lui, ne s'est pas trompé.
Bien sûr. Mais je cite énormément. C'est pour ça que je dis que mon livre n'est pas un livre contre les intellectuels. Mon livre est nourri à la pensée de beaucoup d'intellectuels qui, en effet, se sont pas trompés. Il y a Aron, il y a Orwell, je cite Finkielkraut, je m'appuie énormément sur Revel, je m'appuie sur des penseurs beaucoup, anglo-saxons beaucoup, des penseurs comme Thomas Sowell, Jonathan Haidt, Steven Pinker. Donc je m'appuie sur énormément d'intellectuels qui ne se trompent pas ou se trompent rarement. Et effectivement, je ne parle pas de Camus parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Moi, c'est Camus, je le connais moins. Je connais beaucoup mieux Revel et Aron. Donc je préfère écrire sur ce que je connais. Mais effectivement, beaucoup d'intellectuels... Il ne faut pas oublier que le terme intellectuel est né au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que des intellectuels se sont levés et se sont engagés justement pour la vérité, pour défendre Dreyfus. Donc nous avons besoin d'intellectuels. Mon livre n'est pas un procès des intellectuels ni de l'utilisation du raisonnement. Mon livre, simplement, montre que beaucoup d'obstacles cognitifs se dressent contre la bonne utilisation de la raison et essaye d'expliquer pourquoi.
Mais vous êtes néanmoins un peu, permettez-moi de vous le dire, un peu systématique. Par exemple, vous citez un historien qui montre, dites-vous qu'au début du XXe siècle, la population allemande était l'une des moins antisémites du monde occidental. Est-ce que vous ne dédouanez pas un peu trop facilement la population en chargeant les seuls intellectuels? Il y a eu des ouvrages, les amnésiques, etc., qui parlaient de la population dans sa globalité, qui a suivi l'hitlérisme.
Je ne dédouane pas évidemment la population allemande qui a à la fin applaudi le nazisme. Je donne cet exemple, c'est l'écrivain Robert Gellatli dans un livre passionnant sur l'opinion publique en Allemagne nazie qui montre ça. Il montre que l'opinion allemande a basculé très vite et il décrit un mécanisme où plus Hitler, plus les idées nazies se propageaient, plus elles étaient acceptées, plus Hitler agissait politiquement, plus les gens rationalisaient le fait accompli et se ranger aux évolutions qui leur étaient imposées. Et donc, chaque loi antisémite votée, ou passée en tout cas, ou promulguée, entraînait une augmentation de l'antisémitisme. On a tendance à penser que les lois découlent des fluctuations de l'opinion publique, mais en vérité, ce que je montre, c'est que souvent, l'opinion publique est la conséquence des changements législatifs et que ça peut créer un effet cliqué et un cercle vicieux, en l'occurrence, où des mauvaises idées s'alimentent, des mauvaises idées deviennent populaires auprès d'un petit cercle de décideurs, sont implémentées et par conséquent, comme on a des biais mentaux nous poussant à penser que ce qui est mis en place a toujours quelque chose de bon au fond parce que nos élites ne peuvent pas se tromper, on les rationalise, on se range aux évolutions qui nous sont imposées et ça crée des cercles vicieux qui font que les mauvaises idées peuvent s'implanter très très vite.
Alors je vous prends un autre exemple. Quand vous dénoncez l'aveuglement, et vous avez raison de le faire, des intellectuels qui n'ont pas su voir l'Holodomor, le massacre des paysans ukrainiens, bon, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais vous omettez de dire qu'un grand intellectuel, Vassili Grossman, a tout vu, tout décrit, tout de suite, dans un livre magistral qui s'appelle « Vie et destin ». Il a vu tout ça.
Bien sûr.
Il a été mis au pilori. Mais
bien sûr. Mais je nommais rien du tout. Des intellectuels se sont trompés. Et en face d'eux, des intellectuels brillants ne se sont pas trompés, ont été courageux. Et d'ailleurs, ont souvent subi eux-mêmes le coup social de leur attachement à la vérité. Il y a Vassili Grossman, il y a évidemment Solzhenitsyn, dont le livre a été plutôt mal accueilli en France. Le livre « L'archipel du Goulag » a été plutôt mal accueilli en France chez les intellectuels de gauche. Il y a aussi Simon Leys, l'intellectuel belge, qui en 1974 a écrit un livre pour documenter la réalité du maoïsme. Et alors que les élites, l'intelligentsia française s'enthousiasmait depuis des décennies pour Mao, Simone de Beauvoir a écrit un livre à la gloire de Mao, Roland Barthes voyageait en Chine maoïste et écrivait dans Le Monde des tribunes dithyrambiques pour défendre Mao. Simon Leys est arrivé avec un livre où il a expliqué qu'en réalité, la révolution culturelle avait fait des dizaines de millions de morts. Et l'intelligentsia lui a ri au nez. Lui, qui était destiné à une brillante carrière universitaire, a vu les portes de l'université se refermer sur lui et il a été contraint à l'exil, ou l'exil entre guillemets, si vous voulez, en Australie. Donc évidemment que de brillants intellectuels ne se sont pas trompés, ont été des phares de lucidité. Mais
ne le dites pas assez.
Je suis pas d'accord avec vous, je le dis tout à fait beaucoup.
Par exemple, je prends un autre exemple. Hein. Vous centrez d'ailleurs votre œuvre sur la figure de Sartre qui figure en couverture du livre, mais vous omettez de dire que le Sartre de la dernière période a totalement changé.
Ouais, je suis pas d'accord avec ça.
Vous ne croyez pas dans la rupture avec ce qu'il a été, avec l'histoire Benny Lévy, etc.
Le Sartre de la dernière période a fait un livre d'entretien, par exemple, avec un journaliste américain dont j'ai oublié le nom, et il insulte Aron, et il écrit qu'Aron, c'est en anglais, parce que c'est un journaliste américain qui traduisait les propos de Sartre en anglais, mais il explique qu'Aron était, je cite, c'est vulgaire, mais un gros connard. Il a en 1979, très, très peu de temps avant sa mort, il a applaudi la révolution islamique en Iran. Il avait auparavant sympathisé avec l'ayatollah Khomeini. Il s'est jamais excusé pour ses nombreux égarements. Il s'est un peu distancé du parti communiste, mais pas pour des raisons particulièrement bonnes. Donc non, je ne suis pas d'accord avec cette idée que Sartre, que le bilan moral de Sartre s'est amélioré à la fin de sa vie.
Vous ne croyez pas du tout à cet entretien qui a eu lieu entre Benny Lévy et Sartre, où Sartre, prend un tour qui est tout à fait nouveau dans son œuvre.
Oui, mais ce que certains disent, et je crois qu'Aron le dit à demi-mot dans ses mémoires, c'est que dans cet entretien, il était tout à fait en fin de vie, il n'était pas entièrement lucide, il disait une chose et son contraire, il se contredit beaucoup dans l'entretien, donc je pense qu'il ne faut pas suranalyser cet entretien. Vraiment, Aron suggère de ne pas le suranalyser. Et donc voilà, mais en effet, Sartre a pu dire des choses très intelligentes par ailleurs, et je ne remets pas en question l'intelligence de Sartre ni la pertinence de son œuvre philosophique et littéraire.
Parce que vous mettez en parallèle Sartre et Aron, et c'est vrai que de ce point de vue, Aron a vu juste et Sartre s'est trompé, c'est incontestable. Mais vous mettez en parallèle quelqu'un qui a fait une œuvre de sociologue. Et quelqu'un qui a fait une œuvre qui a écrit de grands romans comme Les Mots, etc. Vous ne le dites pas une seconde.
Non, mais si, je le dis que Sartre a écrit une œuvre littéraire et philosophique majeure. Mais mon sujet n'est pas l'opposition Sartre-Aron pour dire qu'Aron avait raison sur tout et Sartre tort sur tout. C'est le sujet de mon livre n'est pas Raymond Aron. Simplement, il est vrai que quand on regarde les engagements respectifs de l'un et de l'autre, Sartre, le bilan moral de la vie d'Aron est très positif. Aron a vu juste sur presque tous les sujets, y compris, par exemple, sur la décolonisation, où il s'est opposé à la droite française qui était plutôt défavorable à la décolonisation. Donc il a une vision beaucoup plus lucide que celle de Sartre, même sur la décolonisation, parce que Sartre était favorable à la décolonisation. Mais on connaît sa phrase dans la préface au livre de Frantz Fanon, où Sartre légitime le terrorisme et l'assassinat d'Européens. Oui, mon sujet n'est pas vraiment Aron et Sartre. Mais mon sujet, c'est d'expliquer pourquoi Sartre s'est autant trompé, quels mécanismes cognitifs ont été mis en jeu dans son cerveau, et voilà.
Mais je ne remets pas en question cela, je dis simplement que vous ne mettez pas en balance un certain nombre de choses, vous omettez tout ce qui gêne votre tâche.
Non, je suis absolument pas d'accord avec vous. Simplement, le sujet de mon livre...
Ne rappelez pas que Sartre a reçu à la fin de sa vie... lui qui n'a jamais accepté la moindre décoration, évidemment le prix Nobel de la paix, etc. La seule décoration qu'il a acceptée, et il a été à l'ambassade d'Israël recueillir avec à ses côtés. D'ailleurs, je crois Raymond Aron était là avec André Glucksmann, avec Emmanuel Levinas, et il s'est rendu, il a été fait docteur honoris causa.
De toute façon,
Sartre, il a changé.
De toute façon, Sartre n'est pas le sujet de mon livre. Il a peut-être.
Il est en couverture.
Non, mais c'est parce que il est un exemple paroxystique de l'égarement intellectuel, étant donné que quand il s'est engagé, il s'est trompé presque tout le temps. Après, moi, je ne dis pas que Sartre était antisémite. Je ne pense pas que Sartre était antisémite. Et c'est une bonne chose qu'il ait accepté cette décoration. N'empêche qu'en 1972, il a applaudi l'assassinat d'athlètes juifs au JO de Munich. Donc voilà.
Là-dessus, c'est tout à fait... Je note que vous n'avez pas mis un point d'interrogation. Pourquoi les intellectuels se trompent? C'est-à-dire que c'est une affirmation, et j'aimerais que vous nous disiez d'un mot, finalement, l'explication que vous cherchez. Pourquoi les intellectuels se trompent autant?
Oui, donc je donne un certain nombre, de pistes. Je me concentre sur des explications surtout psychologiques et cognitives. Et notamment, je montre que la raison humaine n'a pas été façonnée par l'évolution, comme on l'a longtemps cru, pour nous mener vers la vérité, mais aussi pour nous permettre de faire bonne figure en société, d'acquérir une bonne réputation auprès de nos pairs, au sein de notre communauté. Le psychologue Jonathan Haidt nous demande d'imaginer deux hommes. L'un est obsédé par la vérité et raisonne rationnellement en toutes circonstances, ce qui l'amène à s'opposer au consensus en vigueur dans sa communauté souvent. Alors que le second homme, lui, parvient à rationaliser les erreurs qui font consensus dans son groupe. Et Jonathan Haidt nous demande, depuis des milliers d'années, des dizaines de millions d'années, lequel de ces deux hommes aurait davantage survécu, aurait obtenu pour lui et pour ses enfants la protection de la tribu, aurait joui des fruits de la coopération, etc. Et évidemment, c'est le deuxième homme. Donc nous sommes les descendants d'hommes qui se sont trompés, d'hommes qui souvent adhéraient aux contre-vérités populaires dans leur groupe, et c'est ainsi que la raison a été façonnée par l'évolution. Il y avait souvent un avantage sélectif à se tromper. Donc, lorsque l'erreur fait consensus, on a beaucoup de mal à penser de façon rationnelle et de façon critique et de façon lucide. Et le drame, c'est que ce biais s'aggrave pour les intellectuels, pour les raisons que j'ai décrites un peu plus tôt dans l'entretien, c'est-à-dire que les intellectuels ne subissent pas les conséquences directes de leurs erreurs et disposent donc du luxe de choisir leurs croyances entièrement pour la valeur sociale des dites croyances plutôt que pour la valeur épistémique ou la valeur de vérité des croyances, si vous voulez.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui, le jugement que l'opinion porte sur Aaron est justifié. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est toujours, à vos yeux, banni dans l'opinion française?
Non, je pense que Aaron a été réhabilité, Aaron est vu désormais, en tout cas, peut-être pas à l'extrême gauche, mais est assez largement vu comme un esprit très lucide, et Sartre est assez largement vu comme un esprit qui s'est souvent trompé. Mais ça, c'est vrai des décennies après leur mort. Le fait est que de leur vivant, Sartre a toujours joui de ses erreurs, a toujours bénéficié de ses erreurs, et toujours resté, selon la formule de Solzhenitsyn, le maître à penser de l'intelligentsia occidentale, alors que pour les intellectuels comme Simon Leys, qui pourtant voyait juste, c'était plus compliqué. Même Orwell, d'ailleurs, dans les années 40, qui dénonçait le communisme, a eu du mal à publier, par exemple, La ferme des animaux au Royaume-Uni, parce que, disait-il, l'intelligentsia britannique avait développé une loyauté nationaliste à l'égard de Staline. Donc les intellectuels communistes avaient pignon sur rue, tandis que lui avait du mal à publier ses essais.
Merci Samuel Fitoussi. Je rappelle le titre de votre livre, « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Bon dimanche à tous.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À demain.
Radio J. That's fire. Bada bing bing bada boom. When I walk in the room, I want this, I want that, I want you. Yeah, I can have it just like magic. Bada bing bing bada boom. When I look like I do, I want this, I want that, I want you. Yeah, I can have it just like magic. I'm like a diamond, baby, shining on the floor. I got the thing up on me, everybody knows. Goddamn.
Bonjour à tous, 16h30, 21h, c'est Radio Shalom. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue.
Bon. dimanche. Bon dimanche à vous tous. Vous êtes sur Radio Shalom et on est sur le meilleur de la musique israélienne pour ce dimanche soir. Ici avec vous, Maïtal Peretz et Arnon, évidemment, sur la réalisation. Et on vous amène les meilleurs tubes des radios israéliennes pour qu'on termine cette semaine magnifique et on plonge vers les, presque, vers les vacances. Avec de la bonne musique. On commence avec Netta Barzilai en collaboration avec Tati Kebenel. Classe BFS Mahamat.
מרגיש די על אוויר, הזמן שלנו טס מתהלך איתך ברוטשילד כמו טווס כי את קלאס בפאקן אפס ממש זה באפס ממש זה באפס ממש זה יפה לך ממש זה באפס ממש קשה לא 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 אל תפחתי שיגידו שאני מס כי את קלאס
כולה קלאס
אני קלאס באפס ממש
זה באפס ממש
נפלנו לרצפה וזה קרה. הכרתי גבר, גבר בפוראבר, כל הלילה רק עליו חשבתי. הכרתי גבר, גבר בפוראבר, זה מרגיש לי משהו לא נורמלי. הכרתי גבר, גבר בפוראבר, כל הלילה רק עליו חשבתי. הכרתי גבר, גבר בפוראבר, זה מרגיש לי משהו לא נורמלי.
גבר בפוראבר, הנזק, pas mal. Bon, ça donne le rythme. On a commencé cette émission, puis on va prendre une petite pause ici sur Radio Shalom. On revient avec encore de la bonne musique. N'hésitez pas.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre comme le studio assuré en tout risque dès 155 euros ou notre mutuelle senior à prix imbattable. N'attendez plus, 01 46 59 22 28 01 01 46 59 22 28 01. Toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr. L'assurance s'écrit avec un S à la fin. A tout de suite pour de sacrées économies.
La société iCub vous invite à la 89e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement qui se tiendra à Paris le dimanche 6 juillet prochain à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Vous souhaitez investir, acheter ou simplement en savoir plus sur le marché immobilier? Venez à la rencontre de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, des avocats pour vous conseiller. Des nouveaux programmes de qualité à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juillet à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme Paris 17e.
Nouvelle conférence du rabbin Chaim Torjman, le sujet hasard, signature illisible du créateur, mardi 17 juin à 20h30. Entrée libre, buffet offert, inscription obligatoire pour confirmer votre participation. Inscrivez-vous par téléphone au 01 42 78 00 30 01 42 78 00 30 ou par mail à l'adresse synagogue-nazareth26@gmail.com.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuj. Facile, allodon.fr/écuj.
Bonjour, c'est Claude Boscherberg. Retrouvez-moi sur Radio Shalom pour Mémoire et Vigilance tous les mercredis de 20h à 21h.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Et voilà, on se retrouve pour le meilleur de la musique israélienne ici avec vous, Maital Peretz et Arnaud sur la réalisation. On a commencé avec de la bonne musique, on continue avec Static et Benel qui continuent leur projet de 7 lunes. Mardi dernier, ils ont sorti cette chanson avec Edelman Zaken, La Grande Ville, c'est-à-dire Tel Aviv, évidemment.
ראיתי דרך
פתאום רואה הכל קטן, קשה לראות את הצעות שאתה בתוך ענן. מי שלא מסתכן אף פעם לא מרוויח, היה לי סטטוס שעזר לי להצליח, ואם דבר אחד בטוח אני לא פחדן. זה עולם גדול אני יודע, אני עוזב הכל ורץ אליה.
La grande ville, Stat et Kevin L avec Eden Benzaken, beaucoup de noms là. En fait, c'est incroyable parce que chaque jour, une nouvelle chanson pendant 7 jours. L'album de 7 lunes avec plusieurs artistes invités et plusieurs types musicaux. C'est vraiment une sorte d'album qui sort vers la fin de sa carrière, non ? Oui, apparemment c'est ça, je crois. Alors, on continue avec Jane Bordeaux et Alan Eder. Quelque chose de stupide, something stupid as we know.
אני אעמוד בתור עד שאוכל לשמור לזכות להיקח לערב אחד. ואם נלך למסיבה ישנו סיכוי לאכזבה שחזור לבד. נקפוץ אחרי לשתות קוקטייל שניים במקום שפעם די אהבנו. ונהרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו I love you. מילים יפות לא מתקבלות, אפשר לראות זאת בעינייך עוד מאמש. אך בשבילי כל אות ואות אמת למיטה ברורה כשמש. עד שאמצע דבר כה נהדר לומר איך רוז משפט שנון ונחמד. אבל עדיף שחכה שהירח יעלה ונשאר לבד. הזמן נכון ניחוח בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו. ונהרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו I love you. בוסם באוויר, הכוכבים צופים בנו. ונהרוס הכל פתאום ממש
show tipshake and more I love you.
Stupid, quelque chose de stupide, Alan Eder avec Jane Bordeaux. Et là, on va continuer avec une très belle chanson, Ça manque les êtres humains, de Hanan Ben Ari.
תעזוב, נסתדר בעצמנו חכמים, נכונים וצודקים וכלום לא נמצא מעלינו עד שבאת והדבקת ושיגעת והזכרת ובלבלת והבהלת מיד איך החזרת את השפיות געגועים לבני אדם פתאום שורף את הבדידות כבר לא תשים מפה לשם כל הפארקים נעולים חתונות כמעט בלי איש כמעט איבדנו את עצמנו כמעט הפסקנו להרגיש עוד מעט זה הכל ייגמר ואני מבקש אם אפשר שבבוקר אחרי שתלכי לא נהיה שוב אותו הדבר
הכל אותו דבר וגם קצת אחרת העצב פה נשאר לחגוג איתי כל ערב זה בא לי בגלים פתאום אני נזכרת איך היית שר אני הייתי מסתכלת הכל אותו דבר גם אם לא עלמת הפחד פה נשאר מוציא אותי לסרט סוף היום פתאום אני נזכרת היינו מדברים רק בשפה אחרת ביום שישי עכשיו לבד עוד לא מצאתי אף אחד שישב איתי בדשא לבשתי את החולצה שלך אולי אמצא במנוחה ותשב איתי בדשא הכל אותו דבר תמיד אני אומרת בחוץ הכי יפה ומבפנים אני נשברת ושוב בסוף זאת אהבה אחרת ליום שישי עכשיו לבד עוד לא מצאתי אף אחד שישב איתי בדשא לבשתי את החולצה שלך Yeah.
Pareil, les sœurs Caracouclier, et on va continuer tout de suite vers la fin avec Ivry Leader, sa mère.
את יודעת, לא טעית, לא טעית כשחשבת שהוא גבר סרט הוא חכם ורגיש ועם סוויטה מפוארת במלון בדרום, בשטחים, בשרון איזה יום שיגעון לא טעית כשחשבת שעכשיו זה יהיה אחרת את הגעת ואת פה ואת ממהרת להשיג את הכל ולחיות בגדול כמו בארץ נהדרת שמח ביוון וחברות אמרו שווה לך מהמם במלדיבים כמובן וזה יותר מרשים בסטורי שרואים שאת רחוק כשהמטוס עולה לשמיים איך הוא ממש ממש מתוק אז הוא מתוק וחמוד ואת מאושרת ריבועים שיגועים בגדים ואת מספרת לכולם שידעו וממש יקנו וממש ידברו בשבת על האש שאת מאחרת לבדודה שלך שהיא ממורמרת להספיק את הכל ולחיות בגדול כמו בארץ נהדרת שמח
Ça fait vraiment sa mère. Je suis heureuse, j'espère que vous aussi. Malgré la fin de cette émission, mais je vous souhaite une très belle soirée et bonne semaine à venir. Bonne soirée à vous tous. Meital Peret ici sur Radio Shalom.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur ort-france.fr.
ort-france.fr.
Merci pour votre engagement.
Anaël, tu comptes faire quoi cette année comme formation?
Esthétique, c'est ma passion. Et toi, Noémie?
Pâtisserie. Trop gourmande, tu me connais.
Attends, tu vas à l'école Pros d'Or?
Ben oui.
Oh, c'est charmé, on va être ensemble.
Vous aussi, rejoignez l'Institut Pros d'Or. Garçon ou fille, appelez le 09 50 50 25 96, 09 50 50 25 96 ou sur prosdor.fr. Formation en pâtisserie, boulangerie, esthétique, Pros d'Or, votre avenir commence ici.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo, du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
La société iCub vous invite à la 89e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement qui se tiendra à Paris le dimanche 6 juillet prochain à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Vous souhaitez investir, acheter ou simplement en savoir plus sur le marché immobilier? Venez à la rencontre de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, des avocats pour vous conseiller. Des nouveaux programmes de qualité à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Nous vous attendons nombreux le dimanche 6 juillet à partir de 10h30 au Centre européen du judaïsme Paris 17e.
Best Fenêtre, à votre service depuis 15 ans. Fenêtres, volets, portes en PVC, bois ou alu. La qualité des grandes marques, au meilleur prix, toute l'année. Une nouvelle agence ouvre à Pavillon-sous-Bois, après Paris 20e et les Lilas. Devis gratuit, service rapide, conseil personnalisé. Appelez Bruno au 01 43 73 36 36 ou sur bestfenêtre.fr. Best Fenêtre, certifié RGE Calibat pour profiter des aides de l'État. Alors n'oubliez pas, la qualité, les plus grandes marques au meilleur prix, c'est chez Best Fenêtre.
Bonjour, ici Maïtal Peretz. Je vous attends tous les jours à 17h30 sur Radio Shalom pour le meilleur de la musique israélienne avec beaucoup de tubes israéliens.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Dimanche à la